Alors, vous aurez reconnu une fameuse œuvre de Vivaldi qui s'intitule donc les quatre saisons. Là, c'était l'automne. Vu le temps qui est maintenant, ce matin, il faisait encore beau, mais là, ça y est, la pluie est arrivée. Alors, est-ce que c'est l'automne en juin? Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette intro? Parce qu'on reçoit, quelqu'un de Libellut qui a fait Seasons. Et c'est Paul. Salut, Paul.
Salut.
Ça va?
Oui, très bien. Et toi?
Ça va. T'as choisi l'intérieur? Enfin, Libellut a choisi l'intérieur?
Oui, alors j'ai choisi l'intérieur.
Ah,
j'ai eu le nez creux, en fait.
C'est ça. Vous n'étiez pas là il y a 2 ans, je crois. Hein.
Non, on n'était pas là pour la première édition.
Alors,
on avait juste envoyé des jeux.
Pourquoi êtes-vous venu cette année?
Eh bien, parce que du coup, nos plannings déjà le permettaient moi, que je puisse me rendre sur place, hein, puisque je suis le seul chargé d'événementiel à Libellut. Donc, je ne peux pas faire tous les festivals de France et de Navarre. Et donc là, les plannings permettaient. Et en plus, la première édition s'étant bien passée, il n'y avait aucune raison de ne pas venir dans la belle ville de Strasbourg.
D'accord. Et alors, du sud-ouest, qu'est-ce que tu as ramené dans l'est, disons?
Alors, on a ramené, en fait, nos avant-premières.
Ouais.
Donc, soit des jeux qui ne sont pas encore disponibles, comme par exemple Dice Forge, qui va prochainement sortir. Et lui, le développement est totalement terminé, évidemment. Et on a aussi, après, des jeux qui sont dans une phase de développement plus ou moins avancée, comme la prochaine extension de Mysterium, là, qui est partie en production, ou un jeu qui sortira qu'en 2018, qui s'appelle Jedi Squad.
Vous n'avez pas ramené le jeu en collaboration avec Pearl Games encore? C'est toujours Otis qui s'appelle?
Ah, c'est toujours Otis.
C'est toujours Otis.
Qui s'appelle. Ce sera plus justement Pearl Games qui le présentera généralement sur les,
parce
sur
que
les
c'est
festivals.
Ouais, il en avait parlé chez Proxy Jeux. C'est à la fois son. Enfin, il y a une vraie raison de collaboration avec Libellut,
voilà,
c'est pas un gros jeu à l'allemande comme il a l'habitude d'en faire. Mais il sera quelque chose à présenter, quoi.
Mais ça reste un bon jeu Pearl Game dans son essence.
D'accord, donc Dice Forge, c'est vrai que ça fait un certain temps qu'on en entend parler, avec cette idée de draft 2D à l'époque, ce qui doit toujours être plus ou moins le cas sous une forme ou une autre. Mais il me semble qu'on en avait déjà entendu parler déjà en 2016, c'est sûr, mais voire même 2015 peut-être. Oui, c'est ça, peut-être même fin 2015, on commençait à en entendre parler.
Alors, sa première apparition, on va dire, en public, c'était lors de l'Asmodei. En fait, où on a présenté le premier prototype. Le jeu, après, il a été présenté sous différentes formes assez éloignées de ce qu'est Dice Forge aujourd'hui, lors des off de Cannes, par exemple. Mais il a bien évolué sous ses différentes apparitions.
Donc c'est un jeu de Régis Bonnecet, qui est le patron de Libellut également. Comment est-ce qu'on fait évoluer, entre guillemets, la présentation? Et à quel point est-ce que la présentation en public fait évoluer le jeu? Puisque tu disais, aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose que lors de sa première présentation publique. Après la première présentation publique, le jeu avait déjà bien évolué, je pense, par rapport au prototype initial. À quel moment est-ce qu'on décide de présenter au public? Et comment il évolue à partir de cette première présentation, disons?
Alors, déjà, ça dépendra des types de festivals. Cannes, avec son off, permet de présenter des prototypes très, on va dire, légers en termes de développement. D'autres festivals le permettront moins et on présentera quelque chose qui est quand même assez abouti. Dans l'idée, c'est toujours quand même de pouvoir voir comment les joueurs vont appréhender le jeu, comment ils vont comprendre les règles, avoir leur premier ressenti. Et nous, en observant d'un œil extérieur, on va pouvoir voir les choses qui
marchent
un petit peu, réaliser de l'équilibrage. Pour des jeux comme Dice Forge, c'est assez important vu le nombre de cartes et de faces. C'est vraiment très utile pour les développeurs, en tout cas chez nous, d'avoir tous ces avis extérieurs. Surtout, plus le jeu est complexe, plus il va falloir énormément de parties.
Et Dice Forge, du coup, il est complexe ou il se situe à quel poids de jeu, disons?
Alors, Dice Forge, il est résolument accessible quand même par rapport à beaucoup d'autres jeux de développement, puisque ça reste un jeu de développement.
Mm-hmm.
Mais du coup, il est complexe dans le sens où plus tu rajoutes forcément des cartes, des faces, il y a 106 faces, 96 cartes. En termes d'équilibrage, c'est très complexe et c'est assez difficile, donc il faut faire énormément de parties. Donc c'est pas parce que le jeu est accessible qu'il va pas nécessiter un nombre d'heures d'équilibrage assez colossal.
D'accord, et est-ce que y a toujours cette idée de draft 2D quand même dans le jeu qui était là à la base?
Alors, je sais pas si on peut vraiment
parce
dire
que,
de,
ouais,
draft 2D.
C'est pas un draft comme quand on se passe les cartes, on va pas se passer les dés.
Voilà, c'est pas vraiment un draft, on se rapproche plus du deck building en fait.
D'accord. Donc,
mais sauf que là, au lieu d'avoir une pioche de cartes à construire, c'est nos propres dés qu'il va falloir construire en achetant de nouvelles faces. Donc on ne retrouve pas la notion
mais
de draft.
Différemment de dans Quarriors, qui est aussi du dice building, c'était, je pense, le premier à avoir un peu s'être dit bon ben on fait qu'est-ce qu'on fait avec des cartes, ben on fait du deck building, ben, si on le faisait pas avec les dés, ou là on piochait dans un sac les dés et qu'en fait le pool de dés on constitue au fur et à mesure, là en quoi c'est différent? Ouais.
Là en fait on peut pas vraiment non plus l'appeler dice building parce qu'en effet Quarriors on va se constituer plusieurs dés en fait, on va toute une armada de dés on va dire, alors que dans Dice Forge on a que 2 dés, hein, on ne pourra jamais en avoir plus, donc c'est ce qu'on appelle du dice crafting puisque ce sont les faces cette fois-ci que vous allez modifier et forcément en obtenir de nouvelles pour personnaliser le dé et le rendre de plus en plus puissant.
D'accord, j'ai du mal à voir matériellement comment ça peut se passer. Est-ce qu'on colle des stickers sur son dé?
Non,
ça se passe comment?
Non, bah en fait, alors, à la
c'est
base.
C'est Legacy sur le dé.
Alors, c'est pas du Legacy, non. En fait, il y a de très nombreuses faces dans le jeu, évidemment. Ça a été inspiré par les dés Lego, hein, puisque Lego faisait des jeux de société auparavant, et ils avaient cette très bonne idée de dés customisables avec des faces Lego qu'on clipsait. Donc on retrouve en fait l'inspiration de ces dés Lego avec un système d'attache un petit peu différent. Et après tu retrouves des faces que tu vas clipser sur la base de ton dé. Et puis quand elles ne t'intéressent plus, tu les retires, tu les remplaces par de nouvelles faces plus puissantes, etc. etc.
D'accord, c'est typiquement le genre de matos qui doit être chiant à gérer en production, non?
Alors c'était un petit défi en effet parce que ça...
C'est pas si courant quoi.
C'est pas courant, à part les dés Lego, il n'y avait qu'un seul autre jeu qui faisait du dice crafting. Le nom malheureusement m'échappe, mais il était passé assez inaperçu et les dés sont assez différents. Il y a un vrai défi technique pour faire en sorte que les faces ne tombent pas avec l'usure du dé, que les faces ne s'effacent pas.
Le fait de les éclipser, ça s'abîme pas.
Donc voilà, mais on est très content du coup du travail qui a été réalisé en interne et avec les fabricants. Et on a une qualité qui, je pense, est très bonne vu depuis maintenant quelques temps où les dés et les faces tournent. Il n'y a pas d'usure, donc on est content, on est satisfait.
D'accord, et ça, c'est prévu pour quand?
Alors, Dice Forge, il est prévu pour le 23 juin, donc dans
longtemps. Il est disponible sûrement si vous écoutez cette interview. Donc, donc ça, c'est effectivement un projet dont on entend parler depuis longtemps. Il y avait Otis avec Pearl Games qu'on entend parler depuis un certain temps, mais là, pour le coup, c'est peut-être Pearl Games qui communiquera donc plus dessus. Ce sera aussi pas avant 2018, j'imagine?
Alors, normalement, il est plus prévu pour une fin d'année, pour un Essen. Il avance très bien là, dans son développement, ses illustrations ou autres, donc il ne va pas tarder normalement à partir vers le chemin de la fabrication.
D'accord, le fameux dernier où on a peur qu'il y a des trucs qui marchent pas bien. Et donc celui-là, Mysterium, une nouvelle extension qui avait de la boîte de base qui a très très bien marché. Il y a Hidden Signs qui a aussi bien marché.
Oui, l'extension a très bien marché également. Et donc du coup, deuxième extension qui sortira mais pour fin août. Elle rajoutera de manière assez similaire à Hidden Signs de nouvelles cartes vision, des nouveaux personnages, des nouveaux lieux, des nouvelles armes. Mais à la différence de la première extension, on va retrouver un nouveau type de cartes qui sont les cartes mobiles. Enfin, on les appelle les cartes histoire, mais ça correspond en fait grosso modo au mobile du meurtre.
D'accord.
Donc, voilà. C'est une alternative aux objets par contre. Donc quand on jouera à Mysterium, soit on se dit que le troisième et dernier palier qui sont normalement les objets, soit on joue avec, ou soit on joue
avec, le mobile.
Avec les mobiles.
D'accord, qui apporte une couche narrative encore différente, je pense.
C'est forcément, on ne va pas les faire deviner de la même façon que des objets qui sont là assez concrets. Le mobile et surtout la manière dont ils ont été illustrés, on est dans des choses bien plus abstraites. Donc les joueurs vont pouvoir faire appel à d'autres moyens pour essayer de faire deviner. Mais faut-il encore qu'ils soient sur la même longueur d'onde et qu'ils aient identifié les mêmes mobiles
qui
sont assez flous.
Donc voilà, ça c'est vraiment un gros carton, je ne sais pas. Par rapport, il y a bien sûr Dixit chez Libellud qui marque un gros marqueur. Est-ce que celui-là est, alors je ne sais pas si c'est vendu autant que Dixit, j'imagine que non, pas encore. Mais est-ce que c'est un marqueur du même ordre, c'est-à-dire que depuis Dixit, il n'y avait pas eu de tel best-seller?
Alors pour Libellud, on a eu quelques jolis succès.
Oui, il y a Seasons qui a bien marché.
Il y a Seasons, il y a Looney Quest. Et Mysterium est plus jeune que Dixit, donc on ne peut pas encore le comparer. Hein, parce que Dixit, maintenant, avec ses extensions, c'est quasiment 3 millions et demi d'exemplaires vendus dans le monde. Mais Mysterium marche très, très bien. Et il n'a pas, pendant ce temps, vraiment à rougir, en tout cas par rapport à Dixit. Donc après, on verra s'il continuera à vraiment s'installer dans le temps. Mais pendant ce temps, c'est bien parti.
Et alors, il y a une application qui est sortie pour Mysterium.
Oui.
C'est vrai que moi, je me suis toujours posé la question, parce que c'est un jeu qui repose beaucoup sur la communication entre les joueurs autour de la table, les relations interpersonnelles qui vont se mettre en place, et que, alors qu'on joue avec des humains ou non, l'intérêt de faire une application de ce type-là, outre peut-être toucher un nouveau public, par rapport aux sensations autour de la table qui peuvent se développer.
Alors, c'est forcément différent comme sensation, vu qu'en effet, on va plus avoir l'oral.
Les petits regards, le voilà. Non-dit, etc.
On n'est plus autour de la table avec des joueurs, on ne peut plus échanger avec un certain nombre de moyens de communication. C'est une application qui a été développée par le studio digital d'Asmodée et ça permet en fait, de toucher un nouveau public, de pouvoir jouer à Mysterium dans son essence de jeu d'enquête un petit peu partout où on se trouve.
En s'attardant peut-être plus sur les mécaniques que sur les relations entre les joueurs.
Voilà, c'est ça. On peut quand même, il y a un chat, etc. Il y a pas mal de choses pour communiquer.
Il y a un chat vocal ou pas ?
Il n'y a pas de chat vocal.
Il n'y a pas de chat vocal.
Donc c'est par écrit. Et forcément, c'est des sensations qui sont un peu différentes, mais c'est un bon moyen aussi pour quand on ne connaît pas le jeu, de peut-être commencer à le découvrir et de passer ensuite avec le jeu de société, ou inversement.
Et du coup, justement, sur Twitter, on a vu par exemple ALS avec le serveur qui est quelqu'un qui a pas mal d'abonnés, qui est community manager, je crois, chez Numerama ou quelque chose comme ça, plus FR Android, qui faisait un let's play sur Mysterium. Il y a également Papa de Gamekult qui a parlé du jeu. C'est tout un nouveau public qui est influent auprès de publics qui ne connaissaient pas forcément le jeu de société. Alors j'imagine que pour le coup, en tout cas pour Papa, vous n'êtes pas allé le chercher parce qu'il en a parlé très naturellement. Comment ça se... Et typiquement, Alex le serveur, lui, il a fait ça sur la version numérique. C'est quelque chose que vous recherchez au niveau de l'édition. Je sais que Funforge retweet aussi souvent des tweets de personnes comme ça qui sont un peu en dehors du jeu de société. C'est quelque chose que vous recherchez ou c'est juste quelque chose que vous êtes content de voir arriver ?
Alors là, ça serait plus Léa, notre chargée de communication, qui pourrait parler plus précisément de tout ça. Alors j'ai pas trop développé pour pas raconter de bêtises. Ouais. On cherche pas forcément, je pense, ces contacts-là. On est forcément très content quand ça se produit parce que forcément, c'est preuve que le jeu commence à passer dans d'autres couches, atteindre d'autres types de publics. Et donc, on est très content d'avoir des prescripteurs comme ceux-là qui vont continuer à faire propager l'idée du jeu et son concept. Donc voilà. Après, Léa, en tant que chargée de communication, elle a forcément, que ce soit pour l'édition, on va dire, numérique, digitale ou pour le jeu, elle envoie des exemplaires presse, etc.
D'accord.
Mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Ouais, donc il y a forcément d'autres qui le découvrent après. Là, en tout cas, pour ceux que tu mentionnes, je ne sais pas s'ils ont bénéficié ou pas d'un exemplaire presse.
D'accord, ouais. Et Diceforge, Mysterium, Dixit, t'es parti sur, je crois, une extension annuelle. Est-ce que c'est toujours le cas ?
C'est toujours le cas.
C'est toujours le cas. Cette année aussi, on aura droit à son Dixit ?
Oui, on aura Dixit 8. Ouais. Alors, je ne peux pas encore révéler l'illustrateur.
Ouais, bien sûr.
Mais ça sera un homme cette fois-ci. L'année dernière, c'était Marina Coudray. Donc, on change. Un nouvel univers, encore totalement différent. Un style totalement novateur. Donc... de nouvelles choses, de nouvelles interprétations.
Ouais.
Et puis il y a les 10 ans de Dixit qui se préparent
avec une édition spéciale ultra deluxe avec des figurines.
Non, il n'y aura pas des figurines.
Il n'y aura pas des figurines.
Sur Kickstarter, pourtant.
Non,
non, non. Il n'y aura pas de figurines. Mais en tout cas, on prépare des choses pour ces 10 ans de Dixit et les 10 ans de Libellut.
Donc Otis avec Pearl Games, Mysterium, Dixit, on a cité Diceforge. Tu avais cité autre chose, je crois, tout à l'heure.
Alors après, on va encore un petit peu plus loin avec Jelly Squad. Qui est donc actuellement présenté là en prototype, évidemment. Il est vraiment en plein développement, vu que c'est un jeu qui est prévu pour début 2018, probablement pour le Festival des Jeux de Cannes. C'est un jeu d'Antonin Brocara, illustré par un nouvel illustrateur qui n'a pas encore fait de jeu, qui s'appelle Guillaume Duchemin. Et donc là, on est sur quelque chose de totalement différent par rapport à Diceforge.
Je crois que pour les auditeurs, Antonin avait été interviewé par Cyrus... peut-être au Festival des Jeux d'Épinal ou de Cannes, je ne sais plus. J'ai dit Paris tout à l'heure à Old Chap. Et il en avait un petit peu parlé et je crois que c'était un truc assez original.
Alors oui, il est assez. C'est un peu une sorte d'ovni puisqu'on est dans la catégorie des party games, des jeux d'ambiance, jeux de rapidité à base de dés. On va jouer en simultané alors avec une bonne dose de chaos.
Des dés clipsables ?
Non, pas des dés clipsables. Là, on revient sur des dés classiques. Mais en même temps, il y a tout un aspect tactique en fait. Qui est assez du coup inédit dans les jeux party game et du coup c'est un petit mélange assez novateur et très très intéressant, vraiment assez jouissif à jouer quand on aime bien les jeux de dés de rapidité. Donc il est un petit peu plus clivant vu qu'il y a du chaos, donc si on est allergique au chaos forcément mais après on ne souffre pas longtemps vu que ça dure 15 minutes, donc c'est vraiment on les enchaîne. Et puis
ce que disait Thomas Coet tout à l'heure, il disait le chaos quand on en ajoute, moi j'aime pas trop ça quand c'est des gros jeux, par contre si on raccourcit la partie pour mettre du chaos à la limite, on n'est pas frustré longtemps s'il y a eu un peu d'aléatoire, quoi.
Oui voilà, mais là clairement c'est totalement assumé et volontaire.
D'accord, donc ça c'est le planning donc, pour Libellut pour les disons pour jusqu'à début 2018. J'ai l'impression que vous êtes plus tellement sur une sortie à Essen obligatoire. Bon, alors il y aura peut-être la collaboration avec Pearl Games, je ne sais pas si c'est pour Essen ou en tout cas dans cette zone-là, mais est-ce qu'il y a ce détachement un peu qu'il pouvait y avoir allez, il y a 6-7 ans, disons, sur il faut sortir mon jeu à Essen, même si c'est, à l'époque on ne parlait pas encore de Familial Plus, mais même si c'est du Familial Plus, c'est Essen la date de sortie
Alors, on fonctionne un peu différemment et on a à peu près toujours fonctionné comme ceci.
Parce que là, tu as parlé de Cannes tout à l'heure.
Voilà.
Notamment.
Alors, Cannes, parce que c'est du coup un hasard de calendrier, on essaie quand même de faire en sorte qu'il y ait toujours un événement majeur, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Par exemple, Lord of Xidith, on n'avait pas fait une sortie pour Essen, mais on avait fait une sortie pour la Gen Con aux États-Unis. Donc voilà, donc après, en fait, surtout. Plus qu'une date de calendrier absolument à miser, nous, ce qu'on veut, c'est que le jeu, lorsqu'il sorte, il soit totalement fini, qu'on en soit totalement content. Et donc, on est plutôt connu pour prendre le temps.
C'est la vision Blizzard dans les jeux vidéo.
Oui, voilà.
When it's done, quoi.
C'est ça. Quand ça sera fait, il sortira lorsqu'il sera définitif. Mais si on n'en est pas encore content, on prendra le temps, quitte à recommencer à zéro, on a pu le faire.
Tu citais Lords of Xidith, c'est vrai que c'était un jeu qui était attendu par les fans d'Himalaya. Est-ce qu'il a fonctionné finalement au-delà de ce public de niche qui attendait éventuellement une refonte d'Himalaya ?
Alors c'est un peu particulier avec Lords of Xidith parce qu'on l'a refait aussi pour normalement toucher le public américain vu qu'Himalaya n'était pas sorti.
C'est un tout nouveau format avec les figurines. Au niveau de la charte graphique, ça n'avait rien à voir avec Himalaya par exemple.
Oui, voilà, on était sur un univers totalement différent. Himalaya, qui est évidemment un très bon jeu, commençait quand même un petit peu à vieillir.
Donc ouais, Lord of Xidith,
voilà, matériellement, graphiquement. Donc ça a permis de lui redonner un petit coup de jeune. Après, il a marché très honnêtement. On ne peut pas dire qu'il n'ait pas marché. On ne peut pas dire qu'il a non plus dépassé toutes les attentes inespérées. Voilà, il a fait son petit bonhomme de chemin, tout comme les gros jeux de ce type peuvent
bien sûr,
faire.
Ouais. Et on parlait de Seasons par rapport à Vivaldi. Est-ce que, alors, il a eu deux extensions, je crois, Seasons.
Oui, tout à fait.
Est-ce que... Alors, je sais que c'était aussi une relative bonne vente pour le type de jeu que c'est, qui est un jeu à combo, etc. Plus simple peut-être que Lords of Xidith au niveau de l'approche, mais en tout cas, voilà, quand même pas non plus du niveau de Dixit au niveau de la simplicité d'approche et du public. Est-ce qu'il y a toujours des trucs en développement pour Seasons, ou bien il a fait le tour, ou bien il n'y a plus assez de succès pour justifier une nouvelle extension ?
Alors, pour Seasons, c'est vrai que c'est un cas un peu particulier, parce que pour ce type de jeu, lui, par contre, il a largement dépassé toutes les attentes.
Ouais.
Vu qu'il a réussi à toucher un autre public alors qu'il est quand même un petit peu touffu. Actuellement, il y a plus de développement autour de Seasons, autour de nouveautés. En tout cas, pas de nouvelles extensions. Il y aura des nouveautés probablement pour Seasons, mais sur d'autres médias ou d'autres formats, peut-être.
D'accord.
Je
ne
peux pas plus en dire pour le moment. Mais voilà, c'est toujours un petit peu compliqué parce que c'est un jeu qui s'adresse quand même à un public assez cible. Il a fait une belle, belle vie, mais voilà, forcément, il commence un petit peu à décroître. Le travail d'une extension de season, ça nécessite énormément de temps.
Ouais, d'équilibrage
vérifier
par rapport à avant. C'était...
Et voilà, donc c'est toujours un petit peu compliqué de peser le pour et le contre. Voilà, mais en tout cas, nous, on est très contents de ce que season a pu faire.
D'accord, dernière question là sur le stand. Est-ce que tu as des gens qui viennent tester Diceforge parce qu'on en parle depuis un certain temps, que là, avec la sortie qui se rapproche, y a plus de communication dessus, et donc des gens qui savent ce qu'ils veulent venir tester, ou bien plus des gens qui viennent et puis qui voient et puis qui s'installent et puis qui finalement découvrent le jeu sans en avoir entendu parler avant ?
Alors, un petit peu moins. Il y a toujours au moins quelqu'un autour de la table qui a entendu parler de Diceforge ou qui a pu le tester lors d'un précédent festival, vu qu'il tourne depuis un petit moment maintenant. Donc c'est plutôt des personnes qui savent déjà, ils ont entendu parler du jeu, pas forcément en détail ou autre, mais
ils savent que
le
ça
système.
Peut être intéressant à essayer.
Voilà, c'est ça.
Et est-ce que c'est arrivé qu'il y ait un joueur comme ça que vous croisiez sur plusieurs festivals qui vient voir si le jeu a évolué ?
Oui, bien sûr, on a plusieurs joueurs qui ont fait 2, 3, 4 parties sur les différents festivals qu'on a pu avoir en France et qui ont pu voir du coup les évolutions du jeu. C'est assez fréquent que les personnes aient pu au moins déjà tester une fois un prototype.
Voilà. Et pourquoi ce nom ? Alors c'est vrai que c'est un nom relativement, disons, générique, ce qui n'est pas peut-être du niveau d'Yams Naval, je crois que c'est Charles Chevalier. Mais pourquoi ce nom qui est immédiatement... Enfin, je pense que c'est une volonté de frapper l'esprit tout de suite.
Voilà, il est totalement évocateur, il est assez internationalisable dans pas mal de langues. On va comprendre assez rapidement de quoi il est question. Voilà,
donc et la forge, c'est pour forger CD, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, on forge CD, tout simplement.
D'accord, ok. Écoute, je te remercie, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
Non.
Voilà, est-ce que tu es content d'avoir choisi l'intérieur ?
Oui, je suis vraiment content d'avoir choisi
l'intérieur. Est-ce qu'il y avait des dissensions chez Libellule à ce niveau-là ? Vous étiez tous ? Ouais, on prend l'intérieur.
Non, là ça va, généralement, c'est plutôt moi qui vais me charger de ça, donc les dissensions, c'est avec mon moi interne et mes autres personnalités. Mais...
Et ça va ?
Voilà, on s'est mis d'accord assez rapidement.
Ok, très bien. Écoute, je te remercie.
Et merci à
toi. À une prochaine, salut.
À bientôt.